en coloc. Une retransmission proposée par Canal Academy.
Le corps dans tous ses états. Tel était le thème du rendez-vous annuel des historiens et des passionnés d'histoire en 2009 à Blois. Canal Academy, en partenariat avec les rendez-vous de l'histoire de Blois, organisé chaque année sous la présidence scientifique de Jean-Noël Jeannenet, retransmet la conférence inaugurale prononcée cette année par la philosophe Sylviane Agacinski. Le corps est-il encore un fruit naturel ou un corps fabriqué utilisant d'autres corps comme ressources? Voici le thème de la conférence de Sylviane Agacinski intitulée « La fabrication des corps ». Retrouvons Sylviane Agacinski devant un public attentif dans l'hémicycle de la Halle aux Grains à Blois le 9 octobre 2009.
Nous sommes ici à Blois cette année pour analyser et célébrer ensemble l'entrée du corps dans l'histoire. C'est une entrée relativement récente, mais aussi fastueuse et très attendue. « Le corps, enfin !» s'est écrié Henri Corbin avec enthousiasme, tandis que Georges Vigarello se félicite à juste titre que le corps soit devenu un thème historique à lui tout seul. Aussi, je ne puis m'empêcher d'imaginer chez vous peut-être une pointe d'inquiétude. Que peut-on attendre dans ce contexte de l'auteur d'un livre publié récemment sous le titre « Corps en miettes ». Ne risque-t-il pas d'assombrir un peu l'allégresse des historiens dont Jean-Noël Jeannenet parlait ce matin? Eh bien oui, ce risque existe, car si je partage les bonheurs que nous procure cette entrée du corps dans l'histoire, une histoire qui redonne sa chair au passé, je me demande aussi aujourd'hui si le corps, objet de science et de technique, n'est pas en train d'obscurcir la vision de l'homme vivant. Cette approche paraîtra paradoxale, alors que l'attention et les soins prodigués au corps et les dépenses qu'on lui consacre n'ont jamais été aussi considérables. Mais si l'on assiste au triomphe du corps, presque sans partage, de quel corps s'agit-il? L'idée de corps si simple fait oublier son ambiguïté dans sa perception occidentale, car c'est toujours un corps plus ou moins vivant, plus ou moins mort dont il s'agit. Un corps vu tantôt comme une totalité organique, la totalité d'un être de chair avec ses manières de sentir et d'agir, tantôt appréhendé dans sa matérialité objectale, corps-substance, corps inerte. C'est cette double polarité que la langue allemande exprime en distinguant la réalité vivante de l'existence charnelle, du Leib, et la solide corporéité du Körper. Cette ambiguïté tient aussi au fait que notre tradition n'a jamais cessé de diviser l'homme, l'anthropos, entre sa part extérieure, corporelle, soma, sarx, corpus, caro, et sa part intérieure, pneumatique, psychique, intellectuel, spirituel. Le corps est un vêtement, une robe, qui couvre l'âme, part essentielle de l'humanité. Dès lors, loin de figurer la vie humaine, le corps semble souvent déserté par la vie, du moins par la vie de l'homme. Qu'on l'ait rattaché à l'animal ou à l'époque classique à la machine, le corps ne semble jamais définir l'humain en tant que tel. Chez Homère, le soma n'était que le corps cadavérique. Il est le tombeau de l'âme, chez Platon, et une simple chose étendue, chez Descartes. Au fond, le corps ne vit pas vraiment. C'est l'âme, son souffle, pneuma, qui vit et qui anime le corps physique. Et même lorsqu'il est une chair très vivante, comme pour les chrétiens, c'est encore une chair trop animale, vouée aux besoins, au péché et à la mort. Notre corps mortel, pour Grégoire de Nice, c'était la tunique de peau dont Dieu avait revêtu Adam et Ève en les chassant du jardin d'Éden. C'est ce malheureux corps humain que Dieu lui-même a revêtu au moment de son incarnation, de son incorporation comme dit Tertullien. Et c'est un corps qu'il va falloir mortifier pour se libérer en même temps et de la naissance et de la mort. Mais se libérer du corps, pour les chrétiens, ce n'est pas s'en échapper, ou ce n'est pas seulement s'en échapper, c'est s'en forger un autre, par des techniques ascétiques. C'est en espérer un autre, au-delà de la chair, un corps inaltérable, éthéré, glorieux, sans besoin et sans désir, sans génération sexuelle, un corps docile, comme le souhaitait saint Augustin, soumis à la volonté, mais non pas esclave de la volupté. Je me demande si cela ne nous rappelle pas, au fond, quelque chose. La fabrication du corps, du bodybuilding à l'ingénierie génétique, nous semble certes bien éloignée des techniques ascétiques. Mais l'ambition de surmonter la condition de vivant continue certainement de hanter les rêves modernes. On comprend mieux alors la contradiction apparente qui traverse les réflexions contemporaines sur le corps, tantôt annonçant l'avènement du corps, comme Hervé Juvin, tantôt déplorant l'adieu au corps, comme David Le Breton. Mais il s'agit en fait de la même chose, car le corps qui vient est un corps de plus en plus désincarné, de moins en moins charnel. C'est un corps fonctionnel, efficace, qui doit répondre exactement à ce qu'on lui demande, travail, plaisir, procréation. Et celui qui s'en va, qui se retire doucement, c'est le corps vivant, désirant, vieillissant, et le corps sexué. Je ferai alors l'hypothèse que dans sa réalité physique, objective et matérielle, ce corps objectal a toujours plus ou moins occulté la compréhension de l'homme comme être vivant. Comme si la vie s'était déposée en lui pour ne laisser qu'un reste, une dépouille inanimée, une tunique de peau. Et c'est peut-être encore ce qui arrive au corps dans une version moderne, technoscientifique, où le corps apparaît comme corps biologique. C'est de lui que je vais parler maintenant, en restant sur un terrain incertain du présent, pour voir en quoi il laisse à nouveau peut-être le vivant derrière lui. Je considérerai donc ce corps en soulevant deux questions, dans un premier temps, l'une sur le corps biologique et son nouveau statut, l'autre sur le génie génétique et l'entrée de l'homme dans l'époque de sa reproductibilité technique, pour paraphraser Walter Benjamin. Et dans un deuxième temps, je m'interrogerai sur les limites à assigner ou non à la fabrication biotech de l'homme et à l'idéologie qui est très à la mode en ce moment du transhumanisme. Et dans ce deuxième temps, je poserai deux questions principales. La question de savoir si la théologie et l'ontologie constituent des barrières ou non au transhumanisme, ce qui me paraît douteux. Et puis pour finir, je m'interrogerai sur ce qui est sûrement le plus important, sur ce que veut dire être humain ou même rester humain. Le corps biologique donc prend une place de plus en plus importante dans nos pratiques, dans nos discours et dans notre imaginaire. La catégorie récente et très large de biologique ne désigne pas les êtres vivants, encore moins leur mode spécifique d'être, mais le domaine de leur substance physique telle qu'elle peut être manipulée et reproduite en laboratoire. La façon dont les organismes peuvent être produits selon des procédés biotechnologiques, procréation artificielle et ingénierie génétique, devient la grille de lecture, le filtre à travers lequel on regarde maintenant les êtres vivants, y compris l'homme, comme objet d'une fabrication possible. Certes, d'un point de vue scientifique, il est légitime d'étudier les corps vivants en descendant, comme on dit, jusqu'à leurs plus fins composants, jusqu'au cœur du minuscule, là où se rejoignent la chimie, la physique et la biologie moléculaire. Encore faudrait-il remonter, comme l'écrit François Gros, si l'on veut parler de l'individu vivant et singulier, et notamment de l'individu humain. Sinon, on risque de confondre l'être vivant avec ces particules élémentaires selon un réductionnisme illusoire. Le glissement des vivants vers le statut de produit fabriqué au moyen des biotechnologies entraîne un brouillage ontologique très troublant entre les fruits de la nature et les ouvrages de l'art. Tout être humain engendré est le descendant d'autres êtres vivants par rapport auxquels il varie très légèrement. Comme l'a montré Darwin, les ressemblances spécifiques ne viennent pas de la reproduction d'un modèle, elles sont l'effet d'une communauté de descendance. Les variations flottantes, aléatoires, sont sélectionnées selon qu'elles sont plus ou moins avantageuses pour les individus. C'est la génération qui produit le genre et les êtres génériques, et non pas la reproduction d'un modèle, quel que soit celui qui trace ce modèle. Dans le schéma de la fabrication, au contraire, l'être fabriqué est un artefact, un produit technique réalisé par des artisans ou par des ingénieurs à l'aide de matériaux. L'individu qui en résulte est réalisé selon un plan et il peut être reproduit sur le même modèle en plusieurs exemplaires. Comme Walter Benjamin avait parlé des effets de la reproductibilité technique des œuvres d'art, il me semble qu'on devrait parler des effets de la reproductibilité technique de l'être humain. Car en fait, il n'y a jamais eu jusqu'à présent de reproduction des vivants au sens strict de reproduction, dans la génération charnelle, alors que la biotechnologie permet, par le clonage ou l'action sur les gènes, de dupliquer le vivant ou de le modeler. Le corps biologique comme produit fabriqué semble représenter pour nous une nouvelle façon de mettre l'homme à distance de son corps ou le corps à distance de soi, corps objectivé dans ses composants physico-chimiques. En tant que matériau ou que produit, le corps biologique continue ainsi d'occulter le vivant, celui de l'homme comme celui de l'animal, le mode d'être du vivant. Le terme biologique, substantivé, on entend sans arrêt parler du biologique, le biologique. Ce terme désigne bien une matière vivante, mais telle que le laboratoire peut en disposer. Le biologique, en ce sens, n'est jamais la vie, et il suffit pour s'en convaincre, de songer au corps de l'animal de laboratoire, qui, en devenant matériau, cesse de vivre, au sens où il perd le mode d'être de son espèce. De même, le corps humain échappe in vitro à ce qu'il est in vivo, c'est-à-dire à sa façon humaine de vivre. Je reviendrai sur ce point. Le corps biologique risque ainsi d'effacer, involontairement peut-être, l'expérience réelle du corps, au point que peu à peu, par exemple, depuis l'insémination artificielle, depuis l'extraction des ovocytes, la fécondation in vitro, la transplantation d'embryons, l'événement de la rencontre humaine sexuelle et de la génération se trouve remplacé ou remplaçable, jusque dans notre imaginaire, par des processus artificiellement produits. On quitte ainsi l'échelle des individus et de leur vie pour considérer ce qu'on appelle un schéma procréatif réduit à des rencontres cellulaires, abstraites et dépersonnalisées. Comme le reconnaît Henri Atlan, d'un point de vue biologique, la personne n'existe pas. Dès lors, la technobiologie peut s'installer, et c'est déjà souvent le cas, comme un moyen de production d'embryons à la disposition de leurs commanditaires. Il ne manque finalement que l'utérus artificiel pour permettre de produire des bébés et pas seulement des embryons. En attendant, on demande à des femmes de mettre leur utérus à la disposition d'autrui, au moins dans les pays où la loi ne s'y oppose pas. La mise à disposition d'un organe, loué, vendu, voire donné, n'est pas seulement l'effet d'une relation sociale et économique. Comme jadis, on disposait d'une nourrice pour nourrir un enfant ou d'une esclave pour en faire un. Bien qu'il y ait dans tous les cas un usage instrumental du corps organique d'une personne, de nos jours, c'est un système de production biotechnologique qui fonctionne in vitro avec des fragments et qui appelle à une mise à disposition fragmentaire du corps. Lorsque ce n'est pas possible, comme pour la gestation actuellement, le système tâche de fonctionner tout de même en utilisant des femmes, elles-mêmes fragmentées, qui acceptent justement de fournir pendant 9 mois la pièce nécessaire au système de production complet. La biotechnologie illustre ainsi peut-être mieux que tout autre exemple la pensée heideggerienne de la technique comme mode de dévoilement de l'être. Elle dévoile, en l'occurrence, nos corps en tant que matière disponible pour des processus de fabrication. Elle fait apparaître cette chose nouvelle, un corps biologique, comme une réserve de matériaux et d'organes. La technique moderne dans son ensemble appréhende déjà la nature comme une simple ressource, comme dit Heidegger, je le cite, un complexe calculable et prévisible de force. Eh bien, avec les biotechnologies, elle englobe désormais les corps des êtres vivants, animaux ou hommes, dans l'ordre des matières premières. Le regard sur le corps comme ressource biologique et non pas comme force de travail est bien au-delà de la procréation artificielle. Ce regard résulte à la fois de la maîtrise de procédés techniques, transfusion, prélèvement, greffe, implantation, mais aussi, et tout autant, de manière très importante, des techniques de stockage des substances corporelles récoltées. La mise en réserve de ces substances a lieu dans des banques, banques de sang, banques de sperme, de tissus, de cordons ombilicaux, d'embryons congelés dans l'azote liquide. Ainsi stockées et dépersonnalisées, ces substances deviennent des produits utiles, impliquant forcément un certain coût, mais également disponibles pour de possibles échanges marchands. Il suffit de lire les très nombreux travaux qui leur sont consacrés, depuis le baby business de Deborah Spar jusqu'au body shopping de Donna Dickinson, pour savoir combien ces marchés sont particulièrement florissants. La question théorique et pratique de la propriété du corps et du statut des embryons a naturellement dû être reposée. Ces êtres en puissance n'avaient jadis aucune existence hors du corps maternel, d'où ils ne sortaient que vivants ou morts-nés. Ils acquièrent maintenant, dans le gel, à moins 196 degrés, une existence étrange, une existence séparée, suspendue entre la vie et la mort, les deux sont également possibles, dans une sorte de sommeil glacé. Il a donc fallu leur trouver un statut, quelque part entre celui d'une chose et celui d'une personne. Mais il n'y a peut-être pas lieu de s'attendrir outre mesure sur le cas de ces embryons congelés, car au fond, ils nous renvoient désormais l'image de notre propre condition corporelle. Ne nous voyons-nous pas, nous-mêmes, comme les porteurs provisoires de corps a priori utilisables pour d'autres, de corps disponibles pour donner de quoi fabriquer la vie ou pour la réparer? Il y a de la beauté et de la générosité dans le don, sans doute, et l'on comprend bien qu'il faille s'y préparer de son vivant. Mais enfin, on aimerait tout de même que la pression ne soit pas trop forte, de façon à pouvoir se sentir encore quelque temps bien dans sa propre peau. On doit s'inquiéter surtout de ce que les corps des pauvres dans le monde, des corps objets d'une convoitise biotechnologique sans limite, ne soient pas livrés au marché comme n'importe quel produit. En mettant ces procédés à la disposition de la biomédecine, la biotechnologie crée un pouvoir nouveau auquel chacun peut ou souhaite aujourd'hui recourir. Comme l'avait vu Michel Foucault en considérant par exemple la gestion de la santé publique, le biopouvoir, celui de l'État, comme pouvoir sur la vie, n'est plus le pouvoir régalien de mettre à mort ou même d'enrôler des vies dans la guerre. C'est davantage celui de contrôler la vie. Aujourd'hui, l'usage des biotechnologies ne concerne pas seulement le pouvoir politique de contrôle ou de formatage des corps que Foucault désignait comme biopolitique. Le biopouvoir est aussi un pouvoir technique privé, dont certains réclament l'usage pour l'exercer non seulement sur eux-mêmes, toutes les formes d'anthropotechnie sur lesquelles je reviendrai rapidement, mais aussi sur leurs descendants et en réquisitionnant le corps d'autrui s'il le faut. Le biopouvoir devient donc libéral et commercialisé. Les fournisseurs de cellules et d'organes sont encore des donneurs bénévoles dans certains pays, comme en France, mais sur le marché mondial du corps, un véritable sous-prolétariat biologique est en train de se développer pour répondre à la demande de matériaux. Les femmes, qui font par ailleurs partie des populations les plus pauvres, sont particulièrement touchées par cette demande. J'en viens au deuxième point sur ma première question seulement. L'externalisation et la fabrication génétique du corps. L'externalisation de la fécondation et le développement de la génétique permettent maintenant de sélectionner et de modifier les embryons in vitro à travers le diagnostic préimplantatoire et en agissant directement sur le matériel génétique. Avec les progrès du génie génétique ou ingénierie génétique, les biotechnologies sont capables de dupliquer un être vivant par clonage, mais aussi de produire des individus dont les modifications génétiques seront transmissibles. L'intervention sur le génome humain peut viser à corriger, bien sûr, certaines anomalies génétiques et à épargner aux individus ou à leurs descendants des maladies très invalidantes. Mais il permettrait aussi, à partir de l'homme, et là on est plus dans l'utopie, de produire des individus ou des variétés s'écartant de son espèce. Il permet déjà de produire des plantes et des animaux à des fins diverses, allant bien au-delà de l'ancienne et simple sélection des individus reproducteurs ou des semences pratiquées depuis longtemps par les agriculteurs et les éleveurs, voire pratiquées sur l'humanité par des États totalitaires. En dehors de la célèbre brebis Dolly, on clone aujourd'hui de nombreux animaux, des souris de laboratoire pour la recherche, des chevaux de course pour reproduire leurs qualités exceptionnelles, ou encore des chats et des chiens pour épargner à leurs maîtres, les Américains disent « parents », pour épargner à leurs parents, donc, le deuil de leur animal favori. Un site spécialisé dans cette entreprise de duplication animale s'appelle de façon très éloquente « Best Friend Again ». La vieille espérance de vaincre la mort n'aurait donc plus besoin d'attendre l'au-delà. Elle semble à portée d'éprouvette, au moins pour l'instant, pour nos amis les bêtes, dont l'amitié elle-même semble être devenue reproductible. Cependant, le clonage n'est guère compromettant pour l'espèce, parce qu'il reste une création à l'unité, en quelque sorte, et que les clones ne se reproduisent pas eux-mêmes. En revanche, les organismes transgéniques se reproduisent également naturellement pour le meilleur et pour le pire. Donc on a affaire à des organismes créés différents, fabriqués, mais qui ensuite peuvent se reproduire, comme c'est le cas pour les plantes transgéniques. Il faut savoir aussi que les laboratoires sont déjà peuplés d'animaux chimères fabriqués par transfert de gènes, des lapins colorés, des poissons phosphorescents et même des poulets sans plumes. Et on travaille actuellement à améliorer, je mets des guillemets, la viande de porc par des opérations transgéniques ou le lait de vache dans un but pseudo-sanitaire qui le rendrait finalement immédiatement médicament. Un chercheur américain considère que, c'est un physicien d'ailleurs, considère que le génie génétique, comme l'informatique, pourra se démocratiser de façon à permettre aux particuliers, notamment aux enfants, de produire à la maison toutes sortes de nouvelles variétés d'animaux domestiques, comme les jardiniers créent de nouvelles fleurs et les éleveurs de nouvelles races. Inventer, dit-il, des génomes intéressants pourrait devenir un jeu éducatif et un art. Du côté des humains, on appelle aujourd'hui anthropotechnie, dans ce même esprit, l'ensemble des techniques de transformation non médicale du corps, y compris les techniques de procréation artificielle. Un mot sur ce terme d'anthropotechnie. Il a été formé sur celui de zootechnie qu'avait utilisé Gasparin au XIXe siècle pour désigner les techniques d'élevage. Ce concept d'anthropotechnie est récent, bien que la chose soit assez ancienne, soit même très ancienne, puisqu'on y fait entrer les techniques de marquage corporel, bien connues des anthropologues, comme le tatouage. C'est vrai que le tatouage n'est plus seulement maintenant un objet pour les anthropologues, ou en tout cas les anthropologues du présent, comme le tatouage, les scarifications, les déformations, les mutilations rituelles, etc. Comme le maquillage et la chirurgie esthétique, ces pratiques ont une fonction symbolique, identificatoire ou esthétique. Elles rendent les corps signifiants en jouant sur leur forme, sans toucher à l'organisation même du vivant. En revanche, les techniques transgéniques sont porteuses, évidemment, de toutes les tentations eugéniques extrêmement fortes, ces tentations dénoncées très tôt par Jacques Testard. Ces techniques de transformation du corps ne renvoient pas, sinon exceptionnellement, à ce que Marcel Mauss appelle les techniques du corps, puisqu'il évoque les usages techniques du corps, les gestes physiques traditionnels que les hommes inventent et se transmettent pour vivre ou pour travailler. Cependant, je voulais vous parler plus longuement de Marcel Mauss, mais je pense que ce serait beaucoup trop long. Cependant, et il faut y insister avec Jürgen Habermas, le nouvel eugénisme dont on parle aujourd'hui ne serait plus tant étatique que libéral. Il serait certainement moins politique que civil, et même individuel, on pourrait dire même familial. L'idée circule beaucoup que, après tout, chacun doit bien pouvoir être libre de fabriquer les enfants qu'il veut. Ainsi, dans l'époque de sa production génétique, l'homme s'exposerait à une dérive volontaire de son espèce, éventuellement éclatée en des variétés inédites. Cette possibilité est accueillie diversement selon que l'on accepte avec fatalisme, comme Peter Sloterdijk, ou avec enthousiasme, comme Gilbert Autois, l'annonce d'un avenir transhumain ou post-humain. Ou bien au contraire, que l'on en appelle à la responsabilité et à la réflexion, comme l'économiste Jeremy Rifkin, ou comme les philosophes Hans Jonas ou Habermas, que je viens de citer. Néanmoins, une certaine mode du transhumanisme s'installe sans qu'on se demande toujours comment penser l'humanité de l'homme. Et c'est ce dont je vais parler ensuite. Mais dans mon deuxième lot de questions, je parlerai des éventuels arguments qui permettent de s'opposer à la fabrication technologique de l'homme et à demander ce que veut dire être humain. Jusqu'à présent, je le disais, les techniques ne permettent qu'un brouillage superficiel entre les êtres naturels et artificiels par le remodelage formel du corps, prenant surtout la peau comme subjectile. Ce travail sur le corps appartenait encore à l'ordre au fond du langage, alors que la production de corps génétiquement modifiés pourrait transformer la nature physique de l'homme avec ses équipements spécifiques. Cela nous conduit-il à voir, dans la fabrication de l'homme, au sens biotechnologique du terme, la promesse d'un homme nouveau ? Parmi les passionnés des métamorphoses, et qui ne l'est pas, certains se félicitent de voir l'invention de nouveaux êtres sortir du domaine de la fiction littéraire ou artistique pour entrer dans celui de la confection au moyen de techniques opératoires. Enfin, se réjouit le philosophe Gilbert Autois, on quitte le symbolique, on quitte l'imaginaire, on ne rêve plus d'interpréter le corps, on entreprend de le transformer réellement, c'est-à-dire techniquement. Modifier, et on ne peut pas entendre dans ce renversement un aspect très révolutionnaire de la position. Modifions nos corps à loisir et laissons une chance à la venue d'être post-humain ou transhumain. Nous n'avons plus besoin de nous référer à l'être humain, sinon pour dire que l'homme a toujours été une espèce technique. C'est vrai, bien entendu, et il ne s'agit pas ici de condamner globalement la technique. Mais l'homme n'est-il que cela ? L'homme est aussi une espèce politique, selon la définition aristotélicienne, et cette nature politique de l'homme a de grandes conséquences sur la pensée de l'être humain. J'y reviendrai dans un instant. Donc, question posée à ces techniques, qu'est-ce qui pourrait, et c'est ce que demandent les anthropotechniciens enthousiastes, qu'est-ce qui pourrait assigner des limites à cette évolution de l'homme ? Qu'est-ce qui pourrait le retenir d'entreprendre délibérément une mutation technologique de lui-même, non pas seulement comme individu, mais comme espèce ? L'homme, après tout, est une figure passagère. Par rapport à quoi devrait-il craindre de dériver, puisqu'il n'a jamais cessé de le faire, et de le faire à travers des processus d'adaptation et sous l'influence de ses propres techniques ? Devant ces questions vertigineuses, on nous affirme que tout fondement anthropologique s'écroule puisque ni Dieu ni la nature ne donnent son modèle à l'homme. Autrement dit, si Dieu n'existe pas, tout est permis. Aussi, et c'est ce que dit Gilbert Autois, la question des limites de l'anthropotechnie ne se pose pas, sauf pour ceux qui restent attaché à une définition ontologique à travers la nature ou à une définition théologique de l'homme et qui par là même lui assure une nature déterminée en le privant de sa liberté. Ces partisans d'une dérive délibérée de l'espèce se réclament ainsi de la liberté créatrice de l'homme contre ceux qu'ils traitent comme des humanistes fondamentalistes attaché à une nature humaine, fondée soit sur la nature elle-même, soit sur la transcendance divine. Les choses ne sont évidemment pas aussi simples, et c'est une réponse à ces arguments que je voudrais apporter pour l'instant. D'abord, sur le fondement théologique de l'humanisme, je prendrai les choses un peu à l'envers pour dire que la théologie qui a dominé notre tradition, et en dépit des positions certes très conservatrices de l'Église, n'est certainement pas en mesure d'empêcher la puissance biotechnologique de se développer. J'aurais même tendance à penser, au contraire, que cette puissance peut s'inscrire au fond sans difficulté dans l'histoire métaphysique et religieuse occidentale. En effet, on pourrait, semble-t-il, montrer que la puissance technique et l'exaltation de la liberté créatrice de l'homo faber garde la trace des mythes de la puissance démiurgique et de la liberté créatrice de Dieu, dont l'homme est le représentant sur la terre. La référence à une transcendance divine n'est pas forcément là où on croit chez les humanistes. Elle se retrouve peut-être davantage dans la position technoscientifique de surplomb et de domination de l'homme par rapport à la nature, y compris la sienne. Traiter toute nature comme un objet extérieur manipulable et utilisable, c'est se placer en face du monde, comme Dieu, et fonder sa liberté sur cette position extérieure. La transcendance de l'esprit dans notre civilisation a donné à l'humanité son autorité sur la nature et fondé ce que Philippe d'Escola a appelé le grand partage entre l'homme occidental et la nature. C'est cette même transcendance de l'esprit qui a présidé à la thèse de l'exception humaine, dont Jean-Marie Schaeffer a analysé l'épuisement dans un livre qui porte ce titre. Alors il est vrai que créer la vie est longtemps resté un privilège divin, et bien avant le christianisme, l'homme s'interdisant d'une certaine manière, mais il n'en avait pas les moyens, de changer sa propre nature. Cependant, j'y insiste, en créant l'homme à son image et à sa ressemblance, le Créateur lui a confié la tâche de commander, c'est explicite dans la Bible, au reste de la création, aux animaux et à la nature tout entière, y compris d'ailleurs de commander à la femme. C'est du moins, comme vous savez, l'interprétation des pères de l'Église. Et ceci montre que le grand partage entre la transcendance spirituelle et l'immanence de la chair, passe aussi au sein du corps humain et le coupe en deux pour donner leur destination aux deux sexes. Comme l'explique saint Augustin, Adam a été créé pour son esprit à la gloire de Dieu et à la ressemblance de Dieu, tandis que Ève a été créée pour son corps. Elle a été créée corporellement, Augustin dit corporalitaire, et elle a été créée corporalitaire à la gloire de l'homme et non pas de Dieu. Ces deux destinations divergentes et comme emboîtées, si j'ose dire, l'une dans l'autre, programmeront pour très longtemps ce que j'ai appelé ailleurs le casting métaphysique des sexes. Mais je dois me garder de continuer sur ce thème si je ne veux pas vous retenir jusqu'à demain matin. Je reviens donc au désir de puissance et quand même quelques mots encore à la Bible. Au moment de la chute, Ève et Adam succombent à la tentation du serpent qui leur souffle quoi ? Qui leur souffle que s'ils mangent du fruit défendu, ils seront comme des dieux. L'ambiguïté du mythe est ainsi que la rivalité avec Dieu est un péché, certainement, mais qu'elle est aussi une tentation forte, celle de se mesurer au modèle du pouvoir créateur. Et c'est ce même modèle, et non pas la piété religieuse, qui se conserve dans l'image moderne de l'homme libre et absolument créateur. Le rejet bruyant de Dieu ne suffit aucunement, ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire, mais le rejet de Dieu ne suffit absolument pas à se débarrasser du schéma théologique de la création, puisque précisément l'homme prétend reprendre à son compte le commandement au monde et à se penser lui aussi comme le fabricateur souverain, selon l'expression de Jean de La Fontaine. Mais allez-vous me dire, de quel autre modèle pourrions-nous bien disposer ? Selon quel mouvement peut-on penser la venue des êtres à l'existence, si ce n'est ni celui de la création, ex nihilo, de la création spirituelle donc, ni celui de la fabrication, démiurgique et artisanale ? Eh bien, il y a en effet un autre modèle plus difficile à définir, c'est celui de la génération, c'est celui des engendrements. J'ai noté que le mot biblique, toledot, que les Grecs ont traduit par genesis, à propos de la Genèse biblique, Genèse donc, voulait dire engendrement, génération, y compris au sens des générations qui se succèdent. Génération, ça veut dire aussi, toledot, ça veut dire aussi génération, descendance, histoire. Selon Monique Alexandre, on devrait, pour traduire ce dont il est question dans la Genèse, parler du livre des générations d'Adam et non pas de la génération des hommes. L'accent mis sur les générations tourne ainsi le premier livre de la Bible vers l'histoire des hommes, leurs descendance, leurs successeurs, bien plus que vers leur origine et une vision créationniste. Et cet accent, au fond, et cet accent mis sur la génération, montre que ce qui est interrompu, d'une certaine manière, par la création, c'est la génération. C'est-à-dire, s'il y a deux idées qui s'opposent nettement et qui s'opposent dans le christianisme, c'est la génération et la création. Il ne s'agit pas d'engendrer, il s'agit à tous les sens du terme, et avec tout ce que ça implique de temporalité lente et de transformation complexe, voire aléatoire, eh bien, c'est interrompu par le processus de création dont Dieu, avec la création, donne l'exemple. Seulement, l'autre reproche, et alors oui, ce que je voulais dire, c'est que la production technologique procède de la même façon par une interruption des processus de génération. L'autre reproche fait aux inquiets, aux humanistes, aux conservateurs, c'est à peu près celui-ci. Vous voulez rester humain parce que vous croyez encore à une nature humaine, c'est-à-dire à un modèle préétabli de l'homme. Vous restez attaché à une anthropologie naturaliste, ontologique, même si elle n'est pas théologique, elle est ontologique, c'est-à-dire vous restez attaché à une définition de l'être humain, avec un corps déterminé et des aptitudes définies. Mais ce que néglige cette conception anthropotechnicienne, c'est précisément le plus important, c'est que l'être humain, ce n'est jamais le fait d'être présenté ou de se présenter sous tel et tel aspect, sous telle et telle morphologie. Être humain, c'est vivre d'une certaine façon, c'est se conduire d'une certaine façon dans le monde et avec les autres. Être humain ne se dit pas d'un être objectivable, cela doit s'entendre à mon sens comme un verbe. Être humain, vivre en humain. La question de savoir s'il faut ou non rester humain ne doit donc pas porter d'abord sur des êtres biologiques au sens de leur organicité physique, mais avant tout sur les relations qu'ils peuvent avoir les uns avec les autres. Avec Aristote encore, on peut dire que la manière humaine de vivre, la manière de se conduire spécifiquement en tant qu'homme, résulte de ce que les hommes se représentent le temps et qu'ils sont capables de discours, de logos. Pour faire vite, on peut dire que la vie humaine, c'est celle que les hommes mènent en parlant entre eux de la meilleure façon de vivre ensemble. Et c'est pourquoi ils sont pour Aristote des animaux politiques, pourquoi ils vivent en cité, la polis, ce qui est sans doute la manière la plus haute de vivre, selon ce philosophe. Aussi, n'y a-t-il pas de sens à parler de l'espèce humaine, pour parler d'humain, transhumain ou post-humain, sans y inclure les mœurs et les institutions? Les institutions ne sont pas une façon de sauter par-dessus le vivant, bien entendu. C'est une façon, elles sont une façon de se débrouiller avec l'être vivant que nous sommes. Lévi-Strauss ne disait-il pas « les hommes sont avant tout des êtres vivants ». Et Jacques Derrida titrait un de ses textes « Il faut bien manger » pour indiquer le rattachement de l'être humain avec tous les caractères qu'on peut lui donner, surtout les modes d'être, et son être, sa réalité, sa condition de vivant. Alors, l'anthropotechnie biogénétique vise, elle, à la fabrication d'êtres et de corps à venir, puissants ou chimériques. Et il ne s'interroge pas sur la distinction essentielle qu'il faudrait faire entre les institutions humaines et la fabriquer. La fabrication fabriquée, ça n'est pas instituée. Ses partisans veulent devenir, au fond, les concepteurs d'eux-mêmes, mais aussi de ceux qui vont les suivre dans le temps. Et ils le souhaitent toujours au nom de leur propre liberté. Chacun, disent-ils, doit pouvoir être ce qu'il veut en faisant ce qu'il veut de son corps. C'est par exemple la position de l'Américain Tristram Engelhardt, reprise par Gilbert Autois. « Grâce aux sciences biomédicales, écrit-il, je le cite, « nous pouvons faire de nos corps des objets de notre jugement et de notre manipulation ». Fin de citation. Et nous pouvons le faire sans limite, y compris, je cite encore, en remodelant la nature humaine, parce que, et là je résume l'idée, dès lors qu'il n'y a aucun fondement non confessionnel de la morale, on y arrive toujours, on y retombe toujours, nous n'avons chacun pas d'autre nature que notre liberté. L'erreur des théoriciens de la fabrication de soi est précisément de retomber à pieds joints dans ce qu'ils rejettent, c'est-à-dire une nature déterminée par des techniciens. Car l'homme fabriqué ne sera pas image de Dieu, sans doute, mais il sera l'image de ce que d'autres auront projeté pour lui. On peut bien refuser de ressembler à Adam ou d'imiter le Christ, c'est même un désir assez souvent partagé, mais le technicien veut être le nouvel architecte de l'homme, par la modification de soi ou par la fabrication de ses successeurs. Donc ce qu'il veut, c'est de créer quoi? De nouveaux prototypes humains. Un peu comme les zootechniciens créent de nouvelles variétés de reptiles destinées à l'exposition. Il y a eu récemment une exposition à San Diego de ces reptiles transgéniques. Cette ambition, donc, reconduit le schéma ontothéologique d'un homme type ou d'un homme prototype, tel Adam ou tel Jésus. Seulement, le laboratoire ne crée qu'un prototype physique, celui d'un être défini par un certain équipement organique et cérébral programmé génétiquement. Ce schéma est d'ailleurs entretenu par une illusion contemporaine du tout génétique, critiquée justement par Henri Atlan, illusion elle-même nourrie par la formule simplifiante de programme génétique. Ce mot de programme, on le sait, contribue à occulter le rôle très important de l'épigénèse, c'est-à-dire du milieu, de l'échange entre l'être et le milieu, qui est lui aussi crucial, et le rôle, bien entendu, de l'éducation, sans laquelle il n'y a aucun sens à parler de vie humaine. J'en viens donc à la dernière partie, ce n'est pas ma dernière question, ma dernière partie, pourquoi vouloir rester humain ? Je dirais que, pourquoi vouloir rester humain ? Oui, je ne suis pas sûre de pouvoir répondre à la question, mais je peux, d'après ce que j'ai dit jusqu'à présent, je peux savoir au moins ce que ça ne veut pas dire. Ça ne veut pas dire qu'un modèle, un type, qu'il soit, plutôt ça veut dire qu'aucun modèle, aucun type, qu'il soit passé ou à venir, qu'il soit donné ou construit, ne saurait définir l'homme. L'être humain, j'y reviens, se comprend à partir de la façon dont les hommes vivent ensemble, c'est-à-dire à partir de leurs mœurs, de leurs institutions, et certainement pas seulement à partir de leurs équipements naturels ou techniques. Mais alors, si l'être humain ne se déchiffre pas comme image de Dieu ou comme reproduction d'un modèle, qu'est-ce qui nous permet de l'approcher ? Qu'est-ce qui nous permet de dire, non pas voilà l'homme, mais voilà une figure de l'humain à laquelle peut-être nous tenons ? Eh bien justement, c'est l'histoire. C'est l'histoire et c'est même la préhistoire. Les hommes tels que nous les connaissons aujourd'hui ont acquis leur corps et leurs mœurs au cours d'une très longue histoire. Et si nous parlons d'espèce humaine au sens de Robert Antelme, c'est bien en pensant, au fond, à ce que l'humanité est devenue au cours de cette histoire, c'est-à-dire une humanité civilisée. Que pourrait bien vouloir dire, au fond, rester humain, s'il ne s'agissait pas de cela, de l'homme civilisé, de l'homme avec ses mœurs et avec, bien que le mot en effraie plus d'un, une certaine morale de l'être humain, une certaine éthique. La morale, en ce sens-là, une morale humaine, une morale de l'espèce humaine, dit même Hans Jonas, ça n'est certainement pas un petit vade-mecum individuel à choisir au rayon des idées. C'est le domaine général de la retenue, c'est le domaine du respect, et par exemple du respect du corps, dont les historiens peuvent montrer qu'il a progressé au cours de l'histoire. Pour comprendre comment l'humain vient de loin mais reste fragile, je voudrais me tourner à nouveau, toujours l'anthropologie, pardonnez-moi pour les historiens, mais enfin c'est aussi des anthropologues historiens, puisque je veux me tourner vers un ethnologue qui est également préhistorien, qui est Leroy Gourhan, André Leroy Gourhan. Je me souviens encore avec quelle émotion j'ai lu dans ma jeunesse « Le geste et la parole » paru au milieu des années 60. C'était, il faut le dire, un bon antidote à la métaphysique et à la métaphysique dualiste. L'auteur prenait un plaisir malicieux à souligner que les australopithèques étaient des êtres affreusement bornés et que leur simplicité d'esprit nous empêchait définitivement d'imaginer les premiers hommes comme des êtres intelligents avec des corps de bêtes, un peu ce qu'on était tenté de penser à la fin du XIXe siècle. Il expliquait au contraire, de façon lumineuse, comment, dans la période préhistorique, la plasticité des structures cérébrales et celle de la charpente corporelle leur avaient permis d'agir lentement l'une sur l'autre et avaient conduit jusqu'à l'homme, avec ce corps et cette intelligence relativement stable, en tout cas le corps très stable, que nous lui connaissons aujourd'hui. Mais le plus important pour mon propos ici, c'est que ce corps, une fois stabilisé, eh bien, l'homme fut encore capable, grâce à ses équipements techniques, de changer un peu d'espèce. l'expression de Leroy Gourhan est très étrange. Que signifie changer d'espèce si le corps ne change plus ? L'anthropologue explique que certaines innovations techniques sont capables de bouleverser l'organisation sociale, les conduites et les relations humaines. Par exemple, avec le développement des machines entre le XVIIIe et le XXe siècle, les rapports sociaux se transforment assez profondément. Ces changements ne concernent pas un remodelage des organismes individuels, autrement dit des corps, mais ils modifient assez l'organisme collectif et les relations humaines pour qu'on puisse dire que l'espèce n'est plus tout à fait la même. Et Leroy Gourhan écrit, je le cite, « L'humanité change un peu d'espèce chaque fois qu'elle change à la fois, d'outils et d'institutions. » Fin de citation. Ce point me paraît fondamental, car il explique qu'il faut inclure dans l'évolution vers l'homme l'installation progressive de relations sociales et par là même de valeurs fondamentales. Ces valeurs dont l'homme ne pourrait pas que l'homme ne pourrait pas abandonner sans perdre un peu de son espèce. Charles Darwin avait déjà soutenu, et c'est l'heureux paradoxe de sa théorie, que l'évolution humaine a finalement conduit à l'institution et à la transmission de valeurs telles que le respect d'autrui, la protection collective des plus faibles. Autrement dit, tout en s'inscrivant dans l'évolution naturelle, les institutions humaines allaient en sens inverse du struggle for life qui avait été au principe de la sélection naturelle. Pour Leroy Gourhan, l'humanité avait atteint les limites de son évolution physique. Elle avait trouvé un équilibre, entre son corps et les capacités de son cerveau. Il ne lui restait plus grand-chose à extérioriser, ce qui est le propre des techniques. Toutes les techniques sont au fond des formes d'extériorisation, depuis n'importe quel outil jusqu'à l'informatique. Il ne restait plus grand-chose à extérioriser dans le corps humain. Il était donc condamné, cet homme, à rester fixé dans une stabilité immuable pour ce qui concerne son corps, un peu comme les requins, comparaison peu flatteuse, où il était condamné plus probablement encore à disparaître dans quelques dizaines de millénaires, ce qui laisse tout de même un peu le temps de voir venir. La troisième possibilité, la plus surprenante, était que, pour Leroy Gourhan, l'homme pouvait utiliser les lois génétiques de la sélection, pas la génétique, la sélection seulement, pour suspendre le corps de son évolution et pour tâcher, en somme, de rester le plus longtemps possible ce qu'il était devenu, c'est-à-dire une espèce avec son équipement corporel, son cerveau, mais aussi, last but not least, une espèce avec ses valeurs fondamentales. Nous pourrions peut-être aujourd'hui nous inspirer de cette vision pour nous demander si l'extériorisation technique de la procréation, à laquelle Leroy Gourhan n'a pas pu penser car la fécondation in vitro était encore assez loin, si cette extériorisation n'est pas précisément de nature à bouleverser les relations et les institutions humaines avec leurs valeurs fondamentales. D'un point de vue institutionnel et éthique, qu'est-ce que cela change ? Doit-on donc se demander que l'être humain soit fabriqué plutôt qu'engendré ? Tout d'abord, et là je vais aller rapidement, je l'ai dit au début, la biotechnologie instaure cette disponibilité du corps humain biologique, à des fins artisanales, voire commerciales. Autrement dit, dans les sociétés qui n'auraient pas d'autre fin que les profits, on pourrait s'inquiéter de l'entrée du corps humain dans l'ordre des ressources économiques et des marchandises. Il faut prendre à la lettre la définition par Aristote de l'esclave comme outil vivant, c'est-à-dire comme existence humaine essentiellement utile aux autres. Ce qui fait l'esclave, ce n'est pas seulement qu'il est la propriété d'un autre, que son corps est approprié avec toute sa personne ou sa personne avec tout son corps, ce qui fait l'esclave, c'est la réduction de sa vie à un corps purement utile, remplissant une fonction instrumentale pour d'autres. Et je crois qu'il faut souhaiter qu'en dehors de nos fonctions sociales les plus respectables, et pour une part au moins de notre existence la plus charnelle, il faut souhaiter que nous restions des êtres libres, c'est-à-dire des vivants, précieux et inutiles. Ensuite, je dirais que le glissement de la génération de l'homme à sa fabrication possible représenterait une interruption inouïe des formes élémentaires de la transmission, même si tous les êtres, bien entendu, ne seraient pas nécessairement fabriqués. Nous sommes là aussi dans le terrain d'une réflexion sur l'utopie, sur le corps utopique. Quoi, interruption inouïe des forces élémentaires de la transmission ? Parce que l'animal politique humain tisse des relations horizontales avec ses contemporains et verticales avec ses ascendants et ses descendants. Et il tisse ces relations précisément parce qu'il se représente le temps, comme dit Aristote, et parce qu'il se raconte dans le temps cette existence, la sienne, celle qui précède et celle qui suit. Ces relations ont été jusqu'ici des relations justement qu'on appelait entre générations, entre des classes d'âge qui se succèdent par vagues, chacune d'elles ayant à charge de transmettre à la suivante à la fois la vie organique et la tradition, de transmettre des savoirs, des savoir-faire, des manières de vivre, mais aussi de sentir, de penser, voire d'aimer. Chacune de ces générations sait ou savait qu'elle existait dans un entre-deux, comme un pont éphémère entre la vie d'hier et celle de demain. Par rapport à cette transmission, à cette tradition de la tradition, j'aurais envie de dire, le schéma technique de l'homme fabriqué effectue une sorte de coupure radicale en coupant dans le support de la transmission générationnelle, c'est-à-dire son médium, l'être vivant fabriqué par l'histoire, puisque ce corps devient modifiable en quelque sorte d'un seul coup par une opération extérieure. N'y a-t-il pas là un risque, mais c'est une question évidemment totalement ouverte, considérable à attendre des techniques, une sorte de régénération de l'homme, quelque chose comme un homme nouveau. Par rapport à cette transmission, à cette tradition, l'une des conséquences de la procréation artificielle, c'est justement qu'elle utilise le stockage et donc la dépersonnalisation des matériaux procréatifs, et qu'alors il y aurait un risque d'introduire la confusion dans l'ordre des âges ou dans celui de la parenté. L'usage de matériaux anonymes prive en effet, et c'est encore une autre question même, ceux qui naissent de cette façon, de leur inscription dans une lignée de personnes, de noms propres, de visages humains. Et donc, elle les prive, et beaucoup déjà s'en plaignent, de leur histoire. L'usage de matériaux congelés, sperme, tissu ovarien, embryon, permettent aussi un décalage indéterminé dans le temps entre des donneurs de matériaux et des produits. Et c'est en un sens la notion même de génération successive qui pourrait être brouillée, puisque les matériaux congelés sortent en quelque sorte du temps commun. D'autre part, si l'on admettait que du sperme et des ovocytes puissent circuler entre des frères et des sœurs, entre des mères et des filles, mais enfin j'allais dire des frères et des sœurs à l'ancienne, des mères et des filles à l'ancienne, c'est la prohibition de l'inceste qui serait remise en question, qu'on parle d'inceste du premier type ou d'inceste du second type, selon la description de Françoise Héritier, mais combien de types d'inceste y aurait-il ? En tout cas, on peut s'interroger sur cette question. D'un point de vue éthique, ce sera le dernier aspect que je vais aborder, d'un point de vue éthique, on se demande souvent si un être humain produit techniquement et programmé génétiquement par ses prédécesseurs serait par principe moins libre qu'un être né naturellement. Ce n'est pas sûr. Mais cette programmation, qui au demeurant, on le sait, est illusoire, on ne peut pas tout à fait, ça ne veut pas dire grand-chose en fait, la volonté de programmer. Mais cette programmation créerait très certainement une mutation de la condition humaine. Il y aurait là l'exercice d'un biopouvoir, non pas seulement sur soi-même, mais sur les hommes à venir, sélectionnés et modelés par leurs prédécesseurs à des fins déterminées. Les géniteurs étaient bien jusqu'ici ce qu'on appelait les auteurs de leurs enfants. Mais ils transmettaient en quelque sorte à l'aveugle un patrimoine biologique qui ne leur appartenait pas, qui était le fruit justement d'une histoire. Chaque nouvel individu pouvait donc se rapporter à son corps et ses éventuelles dispositions comme à la conséquence d'un coup de dé qu'il lui revenait finalement d'orienter ou d'exploiter dans un sens ou dans un autre. Cette liberté est de toute façon très théorique si on l'abstrait des formes sociales et familiales de transmission, c'est-à-dire de l'ensemble de l'éducation. Mais, et là je suivrai volontiers Jürgen Habermas, il faut insister sur le fait que la conscience de soi d'un homme qui saurait que son corps a été choisi et déterminé par ses concepteurs, un corps choisi pour avoir des dispositions d'ailleurs qui ne seraient pas forcément que corporelles, bien sûr, eh bien cet homme ne serait pas le même que, et la conscience de son existence ne serait pas la même que celle d'un homme engendré. Son statut ontologique serait celui d'une œuvre voulue par quelqu'un, un peu comme la statue d'ivoire de Pygmalion. Son rapport à ses prédécesseurs serait celui d'un ouvrage à ses ouvriers. Ses concepteurs n'auraient pas seulement voulu son existence et orienté son cours comme n'importe quel éducateur, ils l'auraient commandité. Ils auraient commandé sa nature au sens étymologique de ce qui va lui échoir en naissant, à la naissance. Je ne peux d'ailleurs m'empêcher de penser que ces êtres fabriqués ainsi éprouveraient à l'égard de leur concepteur, une révolte infiniment plus grande et plus violente, sans doute, que celle que nos enfants éprouvent à l'égard de ceux qui les ont fait naître ou qui les ont éduqués, qui pourtant existent déjà. En basculant dans le schéma de la production artisanale, la continuité aléatoire de la génération se brise donc, détruisant en même temps tous les liens qu'elle impliquait. Interrompre la génération de manière technologique, c'est aussi interrompre tout ce qui s'est pensé jusqu'à présent comme communauté de genre, de descendance. Je ne parle pas de l'origine initiale, hein, je parle de la descendance, l'histoire. Tout ce qui s'est pensé au titre des relations géniteur-progéniture et même peut-être ce qui s'est pensé à travers les récits généalogique, c'est-à-dire les histoires qui relatent des enchaînements sans prétendre révéler pour autant une origine première ou transcendante. Au fond, ce qu'on entend par histoire, engendrement ou généalogie, au sens utilisé par exemple par Nietzsche ou même par Darwin, la généalogie, contrairement au terme trompeur de l'origine chez Darwin, c'est the descent, c'est une descendante. Au fond, tout ce qu'on peut décrire, le reste est pure mythologie, ce ne sont jamais que des transmissions, finalement. On peut décrire de la transmission, on ne peut pas décrire de l'origine transcendante absolue. L'ingénierie génétique créerait une véritable solution de continuité au sein donc des mouvements de la descendance des corps. Car l'intervention extérieure sur le génome revient à intercaler un projet et une volonté dans le cours de la génération des engendrements et donc à réintroduire tout ce qu'on aurait voulu effacer, c'est-à-dire une finalité dans l'existence humaine. J'allais dire, Jean-Paul Sartre pourrait se retourner dans sa tombe, lui qui disait toujours « l'existence précède l'essence », eh bien là, si l'homme est fabriqué avec certaines fins, d'une certaine façon, eh bien ses prédécesseurs lui assignent une certaine fin. La façon dont les nouveaux venus s'écarteraient de leurs prédécesseurs ne tiendrait plus à des variations aléatoires, mais à l'interpolation, si je puis dire, par des hommes, de ce projet, de cette fin, dans le mouvement de la vie et la transmission de la vie. Il n'y aurait plus des ascendants et descendants, mais des fabricants et des fabriqués, des producteurs et des produits, d'autant que les premiers devraient sans doute financer la venue des seconds, pour ne pas dire leur sortie, puisque ce seraient des produits, comme on parle de la sortie d'un livre ou d'un film. On voit que, on pourrait même imaginer des génomes brevetés, des génomes d'enfants brevetés, selon leur qualité attendue. On voit donc que, et je terminerai là-dessus, que la revendication dite libérale de faire ce que l'on veut de son propre corps ou de celui de ses contemporains, s'ils sont consentants, passe à côté du problème posé par l'anthropotechnie procréative, où il s'agit de faire quelque chose du corps des descendants. Il ne s'agit plus simplement du désir individuel de changer de corps, de changer d'âge, en gommant les rides, de changer de sexe ou de changer de couleur, ce qui est déjà plus grave, de changer de couleur de peau. Il s'agit de changer la condition d'être qui, demain, ne descendrait plus les uns des autres. Et même si ceci est possible, il faut absolument s'interroger sur les nouvelles catégories dont nous aurions besoin pour penser ce changement de condition. Ce qui est en cause, c'est peut-être moins la liberté d'agir des humains fabriqués, parce qu'après tout, ils pourraient agir de leur propre chef, si j'ose dire. Ce qui est en cause, c'est plutôt leur liberté d'être ou leur liberté, je dirais, de naître sans que quelqu'un ait d'avance fixé leurs traits. L'usage libéral des techniques dont nous venons de parler pourrait donc entraîner des mutations morales et institutionnelles assez profondes pour qu'elles méritent qu'on y réfléchisse. C'est dire aussi combien le corps biologique est un sujet politique, car à supposer que certaines techniques menacent nos mœurs, nos institutions, voire notre civilisation, ce dont je vous laisse juge, elles ne rencontreront en face d'elles aucune autre limite que celle d'une volonté démocratique. Je vous remercie.
Vous venez d'entendre l'enregistrement intégral par Canal Académie de la conférence inaugurale des rendez-vous de l'histoire de Blois, prononcée par Sylviane Agazinski le 9 octobre 2009.